Frankenstein, chapitre 5. Clerval me remit la lettre suivante. À Victor Frankenstein. Mon cher cousin, je ne puis vous peindre l'inquiétude que nous avons tous éprouvée au sujet de votre santé. Nous ne pouvons nous empêcher de croire que votre ami Clerval nous cache la gravité de votre maladie, car voici plusieurs mois que nous n'avons vu de votre écriture, puisque vous avez été obligé pendant tout ce temps de dicter vos lettres à Henri. Il faut, Victor, que vous ayez été bien malade. Nous en sommes presque aussi malheureux que nous l'étions après la mort de votre excellente mère. Mon oncle s'était persuadé que vous étiez très dangereusement malade. Nous l'avons empêché, mais non sans peine, d'entreprendre le voyage d'Ingolstadt. Clerval écrit toujours que vous allez mieux. J'espère vivement que vous nous confirmerez bientôt cette nouvelle par une lettre écrite de votre propre main. Car vraiment, Victor, nous sommes tous très affligés de votre état. Qu'un mot de vous nous ôte toute crainte, et nous serons les êtres les plus heureux. Votre père jouit maintenant d'une si bonne santé que depuis l'hiver dernier, il paraît avoir 10 ans de moins. Ernest a tellement grandi que vous auriez de la peine à le reconnaître. Il a maintenant près de 16 ans et ne paraît plus maladif, comme nous l'avons vu il y a quelques années. C'est un garçon tout à fait fort et animé. Hier au soir, j'ai eu une longue conversation avec mon oncle sur le parti qu'embrasserait Ernest. Dans un état continuel de maladie, pendant son enfance, il n'a pu prendre l'habitude du travail, et à présent qu'il jouit d'une bonne santé, il est sans cesse à courir au grand air, à gravir les montagnes ou à voguer sur le lac. J'ai proposé d'en faire un cultivateur. Vous savez, mon cousin, qu'aucun état ne me paraît préférable. Un cultivateur mène la vie du monde la plus paisible et la plus heureuse, et se livre en même temps à un travail dont les chances sont peu à craindre et les bénéfices presque certains. Mon oncle aurait voulu qu'il fît les études nécessaires pour être avocat, afin que par la suite il pût devenir juge. Mais, outre qu'il n'est nullement propre à une semblable profession, il est certainement plus honorable à lui de cultiver la terre pour la subsistance de l'homme que d'être le confident ou quelquefois le complice de ses crimes. Car un homme de loi ne fait pas autre chose. Je disais que si les occupations d'un bon cultivateur n'étaient pas plus honorables, elles étaient du moins d'un genre plus agréable que celles d'un juge, qui avait le malheur de n'être jamais témoin que des crimes de l'homme. Mon oncle sourit en me disant que je devrais être avocat moi-même. Cela mit fin à notre conversation. Je veux maintenant vous raconter une petite histoire qui vous plaira et vous intéressera peut-être. Vous souvenez-vous de Justine Moritz? Non, sans doute. Eh bien, je vous raconterai son histoire en peu de mots. Madame Moritz, sa mère, était veuve avec 4 enfants, dont Justine était le 3e. Cette jeune fille avait toujours été l'objet des prédilections du père, mais par une étrange perversité, la mère ne pouvait la souffrir, et après la mort de M. Moritz, elle la traita fort mal. Ma tante le remarqua, et pria la mère de Justine, qui était alors âgée de 12 ans, de la laisser avec nous. Les institutions républicaines de notre pays ont donné lieu à des habitudes plus simples et plus heureuses que celles qui dominent dans les grandes monarchies qui l'entourent. Il en résulte moins de distinctions entre les différentes classes des habitants. Il en résulte aussi que les dernières, qui sont moins pauvres et moins méprisées, conservent des habitudes plus pures et plus honnêtes. Un domestique à Genève ne sent pas de même que ceux de France et d'Angleterre. Justine, ainsi reçue dans notre famille, a pris les devoirs d'une servante, condition qui, dans notre heureux pays, ne renferme pas l'idée d'ignorance et n'entraîne pas le sacrifice de la dignité d'un être humain. À présent, j'ose dire que vous vous rappelez à merveille l'héroïne de ma petite histoire, car vous aimiez beaucoup Justine. Je me souviens même que vous remarquiez autrefois qu'un regard de Justine suffisait pour calmer votre mauvaise humeur. Ainsi que l'Arioste parle de la beauté d'Angélique, tant elle avait un air candide et heureux. Ma tante conçut beaucoup d'attachement pour elle, ce qui l'engagea à lui donner une éducation supérieure à celle qu'elle avait d'abord espérée. Ce bienfait fut bien placé. Justine était la petite créature du monde la plus reconnaissante. Je ne veux pas dire qu'elle en fit profession, je ne l'ai jamais entendu l'exprimer par des paroles, mais ses yeux eussent fait croire qu'elle adorait presque sa protectrice. Quoique son caractère fût fort gai et souvent léger, elle faisait pourtant la plus grande attention au moindre geste de ma tante. Elle la regardait comme le modèle le plus parfait, et elle tâchait d'imiter sa façon de parler et ses manières, au point que, même à présent, elle me la rappelle souvent. À la mort de ma chère tante, chacun était trop occupé de sa propre douleur pour faire attention à la pauvre Justine, qui l'avait soignée pendant sa maladie avec la plus vive affection. La pauvre Justine fut très malade, mais elle était réservée à d'autres épreuves. Ses frères et sa sœur moururent, l'un après l'autre, et sa mère resta sans autre enfant que la fille qu'elle négligeait. Cette femme, troublée par le cri de sa conscience, commença à croire que la mort de ses enfants préférés était un jugement du ciel qui la punissait de sa partialité. Elle était catholique romaine, et je crois qu'elle fut confirmée dans l'opinion où elle était par son confesseur. Aussi, peu de mois après votre départ pour Ingolstadt, Justine fut rappelée par sa mère repentante. Pauvre fille, elle pleura en quittant notre maison. Elle était bien changée depuis la mort de ma tante. Le chagrin avait mêlé à son humeur autrefois si vive une douceur et une langueur attrayantes. Son séjour dans la maison maternelle n'était pas de nature à lui rendre la gaieté. La pauvre femme était très chancelante dans son repentir. Quelquefois, elle priait Justine de lui pardonner de sa dureté, mais bien plus souvent, elle l'accusait d'avoir causé la mort de ses frères et de sa sœur. Madame Moritz, dont le caractère irascible ne fut d'abord qu'irrité par un état d'aigreur continuelle, repose maintenant en paix. Elle mourut aux premières approches du froid, au commencement de l'hiver dernier. Justine est revenue avec nous, et je vous assure que je l'aime tendrement. Elle est très adroite, très douce et extrêmement jolie. Comme je vous l'ai déjà dit, ses manières et ses expressions me rappellent continuellement ma chère tante. Il faut aussi, mon cher cousin, que je vous parle un peu du gentil petit Guillaume. Il est très grand pour son âge. Je voudrais que vous le vissiez avec ses yeux bleus, doux et vifs, ses cils noirs et ses cheveux bouclés. Lorsqu'il sourit, on voit sur ses joues deux petites fossettes qui sont fraîches comme la rose. Il a déjà eu une ou deux petites femmes, mais Louisa Biron est sa favorite. C'est une jolie petite fille de 5 ans. Je pense, mon cher Victor, que vous serez bien aise que je vous parle un peu des bons habitants de Genève. La jolie mademoiselle Mansfield a déjà reçu les visites de félicitations sur son prochain mariage avec un jeune Anglais nommé John Melbourne, écuyer. Sa vilaine sœur, Manon, a épousé l'automne dernier le riche banquier M. Duvillard. Votre bon camarade d'études, Louis Manoir, a été plusieurs fois malade depuis que Clerval est parti de Genève. Il a déjà recouvré la santé et il est sur le point d'épouser une très aimable et très jolie Française, Madame Tavernier. Elle est veuve et plus âgée que lui, mais on la trouve très belle et elle est aimée de tout le monde. Moi qui vous écris, je suis en bonne santé, mon cher cousin, mais je ne puis terminer ma lettre sans vous demander encore, avec inquiétude, des nouvelles de la vôtre. Mon cher Victor, si vous n'êtes pas trop malade, écrivez vous-même et rendez heureux votre père et nous tous, ou... Je n'ai pas la force de penser au malheur. Mes pleurs coulent déjà. Adieu, mon très cher cousin. Signé Elisabeth Lavenza. Genève, 18 mars 1700. Chère Elisabeth, m'écriai-je, après avoir lu sa lettre, j'écrirai sur le champ et je mettrai fin à l'inquiétude qui doit la tourmenter. J'écrivis, et je fus très fatigué d'avoir écrit, mais ma convalescence venait de commencer. Elle continua régulièrement. 15 jours après, je pus quitter la chambre. Un de mes premiers devoirs fut de présenter Clerval à plusieurs professeurs de l'université. En agissant ainsi, je suivis une sorte d'usage qui m'était pénible et qui convenait mal aux souffrances dont mon cœur avait été déchiré. Depuis la nuit fatale qui avait été témoin de la fin de mes travaux et du commencement de mes malheurs, j'avais conçu une violente antipathie contre le nom même de la philosophie naturelle. Bien plus. Dans un état complet de santé, la vue d'un instrument d'alchimie était capable de renouveler toutes mes agitations nerveuses. Henri s'en était aperçu et avait fait disparaître tous mes appareils. Il avait aussi voulu que je quittasse mon appartement, car il avait remarqué que j'évitais d'aller dans la chambre qui m'avait auparavant servi de laboratoire. Mais tous les soins de Clerval furent perdus au moment où j'allais rendre visite au professeur. Monsieur Waldman me mit à la torture en louant avec bonté et chaleur mes progrès étonnants dans les sciences. Il ne tarda pas à voir que cette conversation me gênait. Mais, n'en devinant pas la véritable cause, il l'attribua à la modestie et cessa de vanter mes progrès pour parler de la science elle-même, avec le désir bien évident que je me misse à en parler. Mais que pouvais-je faire? Il voulait me plaire et il me tourmentait. Je souffrais comme s'il avait placé un à un devant moi ces instruments qui devaient servir dans la suite à me conduire à une mort lente et cruelle. Je souffrais de ce qu'il disait, sans oser montrer la peine que j'éprouvais. Clerval, qui était toujours si prompte à discerner les sensations des autres, détourna la conversation en alléguant pour excuse son ignorance complète et donna à la conversation un tour plus général. Je remerciai mon ami du fond de mon cœur, mais je ne parlais pas. Je vis clairement qu'il était surpris, mais il n'essaya jamais de m'arracher mon secret. Et quoique je l'aimasse avec un mélange d'affection et de respect qui ne connaissait pas de bornes, je ne pouvais cependant me décider à lui confier l'événement qui était si souvent présent à ma mémoire, mais dont je craignais d'imprimer trop profondément le souvenir à un autre. M. Krumpe ne fut pas aussi docile, et dans mon état de sensibilité excessive, ses éloges brusques et grossiers me firent même plus de mal que la bienveillante approbation de M. Waldman. « Savant collègue, s'écria-t-il, je vous assure, Monsieur Clerval, qu'il nous a tous surpassés. Oui, regardez-moi si cela vous plaît, mais ce que je dis n'en est pas moins vrai. Un jeune homme qui, il y a quelques années, croyait en Cornelius Agrippa aussi fermement qu'en l'Évangile, s'est maintenant mis à la tête de l'université. Et s'il n'est bientôt à bas, nous ne pourrons tenir à côté de lui. » « Allons, allons, » continua-t-il, en voyant mon air de souffrance. « Monsieur Frankenstein est modeste. C'est une excellente qualité pour un jeune homme. Les jeunes gens doivent se défier d'eux-mêmes, vous savez, monsieur Clerval. J'étais comme lui dans ma jeunesse, mais cela passe bien vite. » Monsieur Krumpe commença alors un éloge de lui-même, qui détourna la conversation d'un sujet qui me causait tant de mal. Clerval n'aimait nullement la philosophie naturelle. Son imagination était trop vive pour s'arrêter aux minuties de cette science. Sa principale étude était celle des langues. Son but, en s'y adonnant, était d'ouvrir un champ à son instruction lorsqu'il serait de retour à Genève. Le persan, l'arabe et l'hébreu furent, après une étude approfondie du grec et du latin, l'objet de son application. Quant à moi, à qui la paresse avait toujours été odieuse, dans le désir de fuir les réflexions et en haine de mes premières études, j'éprouvais un grand plaisir à être le condisciple de mon ami, et je ne trouvais pas seulement de l'instruction, mais encore des consolations dans les ouvrages des auteurs orientaux. Leur mélancolie est brûlante, et leur bonheur vous élève à une hauteur que je n'avais jamais connue dans l'étude des auteurs des autres pays. En lisant leurs écrits, il semble que la vie s'écoule sous un soleil brûlant, et dans un jardin de roses, entre les sourires et les dédains d'une beauté cruelle, et dans un feu qui consume le cœur. Combien diffère la poésie forte et héroïque des Grecs et des Romains ? L'été se passa ainsi, et mon retour à Genève fut fixé pour la fin de l'automne. Mais retardé, pour plusieurs motifs, je fus surpris par l'hiver et la neige qui rendirent les chemins impraticables et je remis mon voyage au printemps suivant. Je fus très affligé de ce retard, car j'étais impatient de revoir ma ville natale et mes amis. Mon retour n'avait été différé aussi longtemps que parce que je ne voulais pas laisser Clerval dans une ville étrangère, avant qu'il n'eût fait connaissance avec quelques-uns des habitants. Cependant, l'hiver se passa très gaiement, et le printemps, qui fut plus tardif qu'à l'ordinaire, fut aussi plus beau et plus agréable. Nous étions au mois de mai, et j'attendais de jour en jour la lettre qui devait fixer la date de mon départ, lorsqu'Henri me proposa de parcourir à pied les environs d'Ingolstadt pour faire mes adieux au pays que j'avais si longtemps habité. Je me rendis avec plaisir à cette proposition. J'aimais l'exercice et j'avais toujours eu Clerval de préférence à tout autre pour m'accompagner dans ces sortes de courses auxquelles je m'étais accoutumé dans mon pays natal. Nous passâmes 15 jours à courir d'un côté et d'un autre. Ma santé et mon esprit étaient depuis longtemps rétablis et s'affermissaient de jour en jour par l'air pur que je respirais, par l'accroissement naturel de mes forces et la conversation de mon ami. L'étude m'avait éloigné auparavant de mes condisciples et m'avait rendu insociable. Mais Clerval excitait les dispositions qu'une nature meilleure avait mises dans mon cœur. J'aimais de nouveau les beautés de la nature et l'enjouement des enfants. Excellent ami, avec quelle sincérité tu m'aimais. Tu cherchais à élever mon esprit à la hauteur du tien. J'étais miné et affaibli par un travail profond, mais ta douceur et ton affection ont réchauffé et ranimé mes sens. Je redevins le même qui naguère aimait tout le monde et en était également aimé, qui n'avait ni soucis ni chagrin. Au temps de mon bonheur, la nature inanimée avait le pouvoir de me jeter dans les sensations les plus délicieuses. J'étais en extase à la vue d'un ciel sans nuages et de la verdure des champs. Il est vrai que la saison dont je parle était admirable. Les fleurs du printemps embellissaient les jardins pendant que celles d'été étaient près d'éclore. Je n'étais pas troublé par les pensées qui l'année précédente m'avaient accablé d'un poids insurmontable malgré mes efforts pour les éloigner. Henri se réjouissait de ma gaieté et partageait sincèrement mes sensations. Il s'occupait de m'amuser et il me rendait compte en même temps des sentiments de son âme. Dans cette occasion, les ressources de son esprit étaient vraiment étonnantes. Sa conversation était pleine d'imagination et très souvent, à l'imitation des écrivains persans et arabes, il inventait des contes dont les idées et les passions étaient surprenantes. D'autres fois, il récitait mes poèmes favoris ou proposait des arguments qu'il soutenait avec beaucoup d'esprit. Nous retournâmes à notre collège un dimanche dans l'après-midi. Des paysans dansaient et toutes les personnes que nous rencontrions paraissaient gaies et heureuses. J'étais dans l'enchantement. J'étais transporté par de vifs sentiments de joie et d'allégresse.